Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce lundi 7 janvier 2019. Le réveil culturel est préparé avec Corinne Amar, Vincent Abouchard à la réalisation et Stéphane Desmonts à la technique. Ce matin, nouvelle année, nouveau livre. Et ce matin, avec la complicité d'Oriane Jeancourt du magazine Transfuge, on s'intéressera aux premiers romans qui sortent en ce mois de janvier. Et parmi ces premiers romans qui nous ont marqués, qui ont retenu notre attention, c'est ce Vigile, écrit par Riyam Zaitoun et qui sort au Tripode. C'est un récit court et poignant entre la vie et la mort.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Tout au long des couloirs que nous traversons pour rejoindre ta chambre, ce mercredi après-midi, Victor refuse de marcher. Il se réfugie dans mes bras en pleurant. J'essaye de le porter, mais je ne tiens pas longtemps. Je dois le reposer au sol, lui demander de marcher un peu. Il refuse en pleurant, cela me fend le cœur. J'essaye de me dire que c'est sa façon à lui de tenir le choc. Depuis l'accident, alors que Margot a beaucoup posé de questions, pleuré aussi, Victor, lui, reste muet. Je me dis qu'au battement de mon cœur, à la contraction de mon ventre, il cherche à comprendre. Je sens qu'il se fie à mon visage, à mon corps, pour estimer ce qui nous arrive. Il parle très bien pour son âge, mais les mots, on dirait qu'il n'en veut pas ici. Sent-il combien j'essaye de m'en servir pour tenir debout et combien aussi, au tréfonds, une autre en moi, plus primitive, panique absolument. C'est un extrait de Vigile, votre premier roman, Riyam Zaitoun. Bonjour.
Bonjour.
C'est un texte où un homme est entre la vie et la mort. C'est une semaine de tension racontée par son amoureuse, la mère de ses deux enfants. Une semaine de tension ou plutôt de pulsation, comme vous dites, comme vous l'écrivez.
Oui, effectivement, c'est ce que j'ai essayé de, comment dire, de retrouver. Donc, j'ai pas inventé une histoire. C'est une histoire qui est réelle. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de me mettre au plus proche de des sensations physiques qui me traversaient à ce moment-là, des pensées que j'ai eues. C'était l'essentiel de mon travail, c'était de faire ça, de faire revenir cette mémoire-là très émotionnelle, très physique de ces 5 jours.
À partir de quel moment vous avez eu la forme de ce roman? C'est-à-dire comment ce roman s'est imposé à vous, Riyam Zaitoun? Parce que on va parler de sa structure, il y a une véritable dramaturgie, donc c'est un véritable texte littéraire et on sent dès les premières lignes que c'est une histoire vraie, que c'est un récit vécu. Comment ce récit vécu, vous l'avez transformé en roman et pourquoi d'ailleurs?
Alors, j'avais envie d'écrire un livre depuis très longtemps. Cette histoire était suffisamment extraordinaire pour qu'évidemment elle s'impose au moment de dire j'ai envie d'écrire un premier livre. Oui, il y a une structure. La première chose qui vient en fait dans l'écriture, c'est ce tutoiement, c'est cette adresse. Je n'ai pas forcément envie d'écrire un livre à la première personne, mais par contre j'ai envie d'écrire un livre à cette personne, voilà, à qui je m'adresse tout ce livre, qui est donc mon amoureux. Et donc c'est ça qui est le départ de l'écriture. Donc c'est une lettre, en fait. C'est déjà ça, la structure. Après, qui est cet homme à qui on s'adresse? C'est très important, parce que sinon, comment faire rentrer des lecteurs dans ce livre?
Qui est cette femme qui prend la parole? Et qui sont ses enfants? Et comment la famille va se réunir autour d'un événement tragique?
Oui, alors qui est cette femme? Cette femme, c'est donc une sorte d'avatar de moi-même, puisque j'essaye quand même de faire un travail pour que ce soit pas tout à fait moi, mais un personnage aussi. Donc, ce sont tous des personnages dans cette histoire. Donc, c'est une femme qui a 2 enfants, qui est mariée, qui a une vie, somme toute, assez banale, si ce n'est qu'elle est comédienne et que donc, elle est traversée aussi de résurgences comme ça, qui sont liées à des lectures, à ce que c'est qu'être une comédienne, ce que c'est que de parler à quelqu'un qui ne parle pas, puisqu'effectivement, le personnage d'Antoine est dans le coma. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour parler à quelqu'un qui est dans le coma? Voilà, c'est très difficile, en fait. Et on voit beaucoup de films là-dessus, où les gens s'installent et se mettent à parler, mais c'est pas du tout une évidence, en réalité.
Et comment le faire revenir à la vie? Parce que c'est ça, le moteur dramaturgique de votre texte, Vigile, Riyam Zaitoun.
Et oui, comment on fait revenir quelqu'un qui est dans le coma? C'est une très grande question. Il y a des gens qui pensent qu'on entend tout dans le coma, d'autres pas. Même les médecins sont pas forcément, n'ont pas de réponse là-dessus. Ça s'appelle vigile aussi parce qu'on parle de coma vigile, qui est donc un état où il y a quand même des choses qui passent à travers ce coma, ce sommeil. Et effectivement, c'est pour ça qu'elle lui parle. Elle lui parle, donc mon personnage parle à son homme qui est sur un lit. Et je ne sais pas si c'est ça qui peut le faire revenir à la vie, mais en tout cas, elle en a besoin.
Vous êtes comédienne, Iyam Zaitoun, hein, vous jouez régulièrement au théâtre, vous tournez aussi des films, on vous verra bientôt dans une série télé qui sera pas la première, mais celle-ci, c'est une série internationale que vous venez de, dont le tournage vient de se terminer, ça sera pour Netflix, on en parlera tout à l'heure. C'est-à-dire que, est-ce que ce texte que vous avez écrit, c'était aussi une manière de retrouver le silence pour arriver au sens? Parce que là, on n'est pas en représentation, ce sont des voix intérieure et plus précisément une voix intérieure qui nous narre cette expérience, c'est-à-dire l'expérience d'un homme entre la vie et la mort.
Oui, effectivement, l'écriture c'est le silence, mais c'est un silence qui est plein de sons en fait. Je me rends compte que le fait d'être comédienne, ça me fait entendre les mots aussi beaucoup, c'est-à-dire que même quand je lis un texte pour moi, je l'entends beaucoup dans sa musique. Et donc, c'est aussi un travail que j'aime faire. C'est comment les mots vibrent, d'abord de façon émotionnelle. Qu'est-ce que ça fait de dire un mot, de l'écrire sur la page blanche? Il se passe quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe aussi quand on le lit à voix haute, quand on le dit? Ça, pour moi, c'est très important. Et c'est vrai que les textes de théâtre... sont écrits aussi dans ce rythme-là, dans un rythme qui fait qu'on a envie de les faire résonner à voix haute.
C'est-à-dire que ce texte, par exemple, Iyam Zaitoun, a été écrit aussi pour être joué, pour être partagé sur scène?
C'est une question que je me suis posée au début de l'écriture. Je me suis dit, est-ce que j'écris quelque chose qui serait un texte de théâtre ou est-ce que j'écris un récit? J'ai eu envie d'être dans le récit, en fait. Peut-être parce que c'était une histoire très forte et qui m'est arrivée. J'avais aussi envie de ce secret-là et de cette adresse qui est une adresse individuelle au lecteur qui va ouvrir un livre et qui va entendre une voix lui chuchoter une histoire. C'était plus ça que j'avais envie de faire. Après, il se trouve que, les rencontres, la vie font que je vais bientôt le lire moi-même. Donc sur scène, à la Maison de la Poésie, bientôt.
Le 30 janvier, oui, accompagné de musique.
Voilà, de Julien Joly, qui est compositeur, qui va créer une musique spécialement pour cette occasion. Et c'est vrai que c'est un défi, parce que c'est pas facile de lire un texte qu'on a écrit. Pas du tout facile, et encore plus quand on est comédienne, parce que tout à coup, on arrive avec peut-être trop de questions ou trop de pression ou trop d'envie, je ne sais pas. Donc l'idée, c'est de le travailler comme si c'était un texte qui n'était pas le mien. Je vais essayer.
Il y a les personnages de votre famille, de la famille de votre compagnon, qui sont très présents, même s'ils ne prennent pas la voix, ils sont là. C'est-à-dire que c'est aussi un roman où on retrouve la famille ou une notion de ce qu'est la famille.
Oui, tout à fait. C'est vraiment... je parle d'une famille, de ce que c'est, et d'une famille aussi agrandie. C'est-à-dire, il y a la famille de ma belle famille, mais également la famille du quartier, la famille des voisins. Ça parle de la solidarité, en fait, de qu'est-ce qu'on peut faire dans un moment comme ça où finalement on est tous très impuissants, hein, mais quelle main on peut se tendre dans un moment difficile comme ça. Et pour moi, c'est une leçon, hein, que je prends à ce moment-là. On est dans des sociétés très individualisées. On n'ose pas beaucoup forcément se demander de choses. Et des situations exceptionnelles comme ça font comprendre aussi on a vraiment besoin les uns des autres. On ne peut pas tout faire, mais on peut être dans ce présent-là d'être les uns à côté des autres, quoi.
Malgré la dureté de la vie, la précarité de votre métier, parce qu'il est aussi question de la précarité des intermittents du spectacle dans...
Absolument.
Ce court texte, Iyam Zaitoun, Vigile.
Et oui, parce qu'on a, souvent l'idée que être comédien, tourner à la télévision ou au cinéma ou au théâtre, c'est ça va tout seul, ou une fois qu'on a commencé à travailler, ça va tout seul, non? Et voilà, c'est un métier très précaire. Les deux personnages de cette histoire sont comédiens. Donc, qu'est-ce que c'est ce choix d'être artiste et d'avoir une famille? C'est pas facile.
Et de faire des enfants.
Ouais. Et de faire des enfants. Après, voilà, je pense que le bonheur qu'on a à le faire peut compenser l'insécurité dans laquelle on est. Mais oui, c'est pas du tout un confort. On parle des intermittents du spectacle. Voilà, non, c'est pas confortable du tout d'être intermittent du spectacle. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont artistes et comédiens qui ne sont pas connus et qui font plein de choses formidables dont on ne parle jamais que de personnes dans la lumière. Et voilà, c'est un choix aussi de se dire finalement, voilà, ce qu'on aime, on aime le faire, et c'est pas forcément pour devenir une star ou non, c'est le plaisir d'artisan de ce métier, quoi.
Comment c'est arrivé chez vous, Iyam Zeitoun? Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a mené à ce métier, qui est le premier de vos métiers, c'est-à-dire comédienne, Iyam Zeitoun?
Alors moi, j'étais au lycée Claude Monet, dans le 13e arrondissement. J'avais 17 ans et il y a eu un atelier théâtre qui s'est créé, qui était créé par Emmanuel de Marcimota, qui était tout jeune, qui devait avoir peut-être 2-3 ans de plus que nous, mais qui avait déjà une compagnie et tout ça. Et donc, j'ai mis le pied dans cet atelier et ça y est, j'étais complètement... C'est une drogue, en fait. Donc après, moi, je n'osais pas du tout me dire que j'allais devenir comédienne. Donc, j'ai fait des études littéraires. Je me destinais plutôt à être professeure. Et puis, au moment de passer le concours de Normale Sup, il y a quelque chose qui a switché en moi. Et même si je l'ai passé, je l'ai très mal travaillé. Et je me suis retrouvée, effectivement, après, en fac, mais très vite à passer le concours du Conservatoire National que j'ai eu. Et c'est la première fois que je me suis dit, OK, ça va être mon métier. Mais j'avais beaucoup de mal à y croire avant. Mais voilà, je suis très heureuse de le faire.
Quand je dis que comédienne est votre premier métier, c'est que par ailleurs, vous écrivez. Alors vous écrivez avant ce premier roman, avant Vigile, qui paraît en ce début d'année au Tripode. Vous avez collaboré à l'écriture de scénarios. Et surtout, vous êtes l'auteur d'un feuilleton que France Culture a diffusé, qui est « J'apprends l'arabe ».
Oui, tout à fait. C'est ma première. Pour moi, c'est la première écriture aboutie, dans le sens où voilà, je collabore à des scénarios, mais les temps sont très longs, c'est très souterrain avant que ça arrive à la lumière. Donc là, voilà, c'est un premier feuilleton que j'ai écrit qui part d'une chronique qui est que il y a quelques années, j'ai décidé d'apprendre ma langue paternelle, qui est l'arabe. Et donc, je suis allée à l'Institut du monde arabe et j'ai commencé à apprendre l'arabe classique. Et donc, à partir de là, beaucoup de choses ont fait écho, en fait, dans ma vie. Voilà, plein de choses qui étaient aussi bien liées à simplement se dire, mais en fait, pourquoi faire ça? Beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu apprends cette langue? À quoi ça te sert? Donc, il y avait une part qui était... Voilà, lié aussi à mon métier de comédienne, parce que très souvent on me dit, est-ce que tu parles arabe? Est-ce que tu peux jouer des rôles arabes? Donc je sais que c'est facile pour moi d'apprendre un texte en égyptien, de le parler, mais par contre j'avais envie d'être capable de lire, d'écrire et d'avoir une autonomie dans cet apprentissage. Mais aussi
apprentissage que vous n'avez pas eu quand vous étiez jeune, puisque
non.
Votre père ne vous a pas transmis sa langue maternelle à lui.
Non, il ne m'a pas parlé arabe. J'entendais l'égyptien quand j'allais en Égypte l'été. Je l'entendais parler en égyptien au téléphone, mais nous, il ne nous a jamais parlé en égyptien. Et c'est vrai que, voilà, je pense que c'est un manque, dans le sens où c'est une musique que j'aime beaucoup, que je comprends beaucoup, beaucoup de choses, mais au moment de parler, ça ne vient pas. Donc, d'où vient ce silence-là? C'est une question que je continue à explorer, qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui fait que voilà, cette culture-là aussi n'a pas été complètement transmise? Et aujourd'hui, dans le monde où on vit, je pense que c'est extrêmement important de se la poser. Quelle porte on met? On a la Méditerranée en partage. pourquoi on partage pas plus, quoi.
Vigile de Yam Zeitoun aux éditions Le Tripode. Vous allez lire ce texte si personnel que vous arrivez à traiter d'une manière littéraire pour qu'il puisse être partagé. Je dirais pas comment ça se termine, mais disons que qu'on est très étonné par une fin qui n'est pas classique pour ce genre de récit où le témoignage dramatique est au centre du texte là. J'en dis pas plus. Juste une question, on va vous voir bientôt dans une série télé pour Netflix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Yam Zeitoun?
Alors, je peux pas trop en parler parce que je pense que la promo n'a pas commencé. Donc je vais juste en dire quelques mots comme ça de moi, mon expérience. Donc c'est une série d'espionnage qui se passe entre l'Égypte, l'Israël. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre un des plus célèbres espions israéliens et sa femme. Et donc c'est une histoire qui parle des échos comme ça entre une femme et son homme, avec tout ce mystère au milieu. Moi, c'est ça qui m'a plu beaucoup, plus que le côté géopolitique. Je pense que c'était pas ça tellement qui était traité dedans, même s'il existe parce que c'est une histoire vraie.
Français, anglais, vous jouez. En utilisant comme quelle langue pour ce feuilleton?
Alors j'ai d'abord été coachée sur un accent anglais israélien et puis finalement tout a changé, donc j'ai dû apprendre très très vite un accent anglais avec un accent égyptien, donc ça m'arrangeait, j'étais très contente. Mais oui, je tourne en anglais et j'aime beaucoup en fait, ça me plaît de travailler dans des langues étrangères. J'imagine que c'est lié aussi à cette langue qui peut-être me manque. Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses quand on joue dans une langue étrangère. Voilà, notre liberté en fait.
Merci Yam Zeitoun. Vigile, donc, je rappelle, qui sort au Tripode. Une chanson accompagne parfaitement ce texte. C'est cette énigme d'Alain Bashung, Immortel, qu'on va écouter tout de suite, le temps que Oriane Jeancourt fasse son entrée et qu'elle nous parle, elle, de ses coups de cœur pour les premiers romans sortis en ce mois de janvier 2019. Une fois de plus, merci Yam.
Merci beaucoup.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
On change d'année, mais pas de bonnes habitudes, puisqu'on retrouve Oriane Jeancourt, notre amie et partenaire du magazine Transfuge, pour partager une fois par mois nos coups de cœur littéraires. Et on va parler donc des premiers romans, mais cette année, Oriane Jeancourt, meilleurs vœux bien sûr pour 2019.
Mais à vous aussi, et bien sûr à vos auditeurs.
Donc avant de parler des premiers romans, avant d'avoir votre sélection à vous, la sélection de Transfuge, on ne peut pas ne pas parler du grand événement littéraire de cette rentrée, c'est-à-dire Sérotonine.
Oui, c'est difficile d'y échapper, et bien sûr, je l'ai lu, si c'est ça votre question.
Le dernier Houellebecq.
Le dernier Houellebecq, il fallait un avis, nous avons fait un long article dans le numéro de Transfuge de janvier. C'est-à-dire qu'on est en terrain connu, le personnage est là, il est toujours aussi misogyne, il tend toujours vers une certaine forme de populisme, il provoque les écologistes, il attaque Libération, il déteste la gauche bien pensante. Enfin bref, le personnage est assez abject, de notre point de vue,
Vous parlez du narrateur ou de l'auteur?
Du narrateur, de l'auteur. Bon, chacun, ouais. Chacun aura son idée, chacun se fera son idée. Mais il faut reconnaître que ce Sérotonine, malgré ou grâce à ce personnage, ce sera aussi au lecteur de choisir, eh bien, marque, à mon sens, le grand retour de Houellebecq en littérature, parce que, il a une maîtrise romanesque dans ce livre, dans ce récit qui est finalement le récit d'un homme à la poursuite de l'amour. Donc d'un côté, l'histoire de son passé amoureux, les différentes femmes qu'il a rencontrées. Alors, il parle des femmes avec une brutalité habituelle, mais cette fois assez forte. Mais en même temps, il en sort quelques-unes et on voit une espèce de romantisme surgir chez ce personnage qui tout d'un coup est en quête d'amour à tout prix avec deux femmes, l'une qui s'appelle Kate et l'autre qui s'appelle Camille. Et qui sont, il faut bien le reconnaître, de beaux portraits de femmes et une tentative de dessiner un amour houellebecquien, un romantisme houellebecquien.
Mais on ne saura jamais si vous avez aimé ou pas.
Je vous l'ai dit. Je trouve que, en tout cas, celui-là est bien meilleur que le précédent.
Soumission,
et donc, c'est
donc
un bon Houellebecq. Pour dire les choses simplement, c'est un bon Houellebecq.
Allez, on passe au premier roman. Vous avez jeté un œil sur le Yam Zaitoun, notre invité du jour, qui sort Vigile au Tripode.
Écoutez, oui, je m'apprête à lire. Je trouve en tout cas que c'est une histoire forte et c'est toujours intéressant, mais je ne l'ai pas lu pour le moment.
Votre sélection, Rien de Jeancourt, la sélection des trois premier roman à ne pas louper en cette rentrée de janvier.
Pour moi, le grand roman de la rentrée, ce n'est pas le Houellebecq. Il est signé de Mike McCormack, un Irlandais, et il s'appelle D'os et de lumière. Ce n'est pas un primo-romancier, c'est un romancier qui écrit depuis longtemps, mais qui est pour la première fois traduit en français, qui a été couvert de prix pour ce livre. Et c'est vraiment le portrait d'un homme. Vous voyez, le portrait d'un homme qui essaye d'être quelqu'un de bien. Alors, un homme d'aujourd'hui, marié, qui a des enfants, qui vit dans cette campagne irlandaise, dans une petite ville irlandaise, et qui va vivre, on le comprend petit à petit, les dernières heures, les derniers jours de sa vie. Et donc, comment est-ce que cet homme va affronter, faire en quelque sorte le bilan de sa vie, se demander sur quoi reposait son couple, se demander comment est-ce qu'il a éduqué ses enfants, comment est-ce qu'il les a perdus aussi au moment de l'âge adulte. Il y a une très grande humanité dans ce livre qui est composée d'une seule phrase. Donc, il y a aussi une prouesse formelle évidente et qui s'inscrit dans la grande tradition littéraire irlandaise de Joyce à Beckett. Enfin, Mike McCormack, moi, m'a sidéré que ce soit sur le plan formel ou sur un plan, qu'on peut dire, un plan humain.
Mike McCormack, donc, pour D'os et de lumière, mais c'est pas un premier roman.
Ce n'est pas un premier roman, contrairement aux deux autres dont je vais vous parler, qui sont deux primo-romanciers français. D'abord, Grégory Le Floch, qui signe dans la forêt du hameau de Hart, aux éditions de l'Ogre. Alors là, vous voyez, on est vraiment dans la veine bernardienne de la littérature française. Vous avez peut-être remarqué que Thomas Bernhard a beaucoup influencé la jeune littérature française. Et alors là, plus que jamais, puisqu'on suit un jeune homme retranché dans le hameau de Hart, il l'a dit, quelque part en Allemagne, en train de poursuivre vaguement une thèse sur le maître qui est pour lui Thomas Mann. Donc là, on a le côté bernardien. Et puis tout d'un coup, un thriller psychologique, un véritable thriller se met en branle. Et alors, il y a une inquiétante étrangeté qui monte dans le livre et qui a des accents plutôt de David Lynch. Donc, Grégory Le Floch est vraiment un homme d'ambiance qui nous plonge dans les angoisses de ce jeune homme, ce jeune bourgeois qui fuit Paris, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour une histoire d'amour. C'est vraiment assez puissant pour un premier roman.
D'autant plus que Grégory Le Floch est né en 1986, il est jeune, il est professeur de lettres et vit à Paris. Donc, dans la forêt du hameau de Hart, et c'est aux éditions de l'Ogre. Mmh. Et enfin, troisième.
Et alors, enfin, un roman qui s'appelle La fiction ouest de Thierry Decotini, au Tripode aussi. Décidément, nous partageons l'enthousiasme pour la rentrée du Tripode. Alors, Thierry Decotini, je ne le connaissais pas non plus. Alors, lui, il suit la veine de Grégory Le Floch, puisqu'on est dans un univers sombre, là, plus kafkaïen que bernardien. Nous sommes dans un pénitencier de jeunes hommes. Il y a aussi beaucoup de jeunes hommes dans ce livre. On ne sait pas très bien où, on ne sait pas très bien comment. On voit bien qu'on avance dans une espèce de fable philosophique et psychologique. Règne une cruauté de plus en plus forte dans ce pénitencier. Les hommes et quelques jeunes femmes qui viennent ensuite s'administrent des punitions. Tout ça dans une langue très sobre, contrairement à Grégory Le Floch, très tenue, très kafkaïenne, parsemée d'élites d'apocalypse et de non-dit.
Roman,
et c'est vraiment un
poème.
Roman d'horreur.
Voilà, roman-poème, dit l'éditeur, pour présenter la fiction Ouest.
Roman-poème, roman dur, roman politique aussi, puisque évidemment, raconter un pénitencier n'est pas totalement neutre aujourd'hui.
Allez, on récapitule les premiers romans de cette rentrée 2019 que nous vous conseillons, avec le magazine Transfuge et avec Oriane Jeancourt. Alors d'abord, Yem Zaitoun, Vigile.
Ensuite, Mike McCormack, D'os et de lumière. Et puis, Dans la forêt du hameau de Hart, Grégory Le Floch. Et la fiction ouest, Thierry Descotigny.
La fiction ouest, c'est bien sûr au Tripode et Grégory Le Floch.
Aux éditions de L'Ogre.
Merci, Oriane Jeancourt. J'espère vous retrouver avec d'autres coups de cœur très bientôt sur l'antenne de France Culture.
Another one. No complaining, just champagne.